prie, car nous avons parlé contre l'Éternel, verset 7, et contre toi, prie l'Éternel qui retire de dessous nous les serpents. Ils ont demandé que l'Éternel retire les serpents, mais ce n'était pas selon Dieu. Il a laissé ses serpents, mais il a donné un autre moyen. Il ne faut pas insister dans nos prières que Dieu exauce nos prières selon nos pensées. Il a sa manière à répondre à nos prières. Donc ne pas dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous, mais te laisser seul agir. Et Dieu a agi. Il a donc donné ses moyens, si bien connu que le serpent d'Arin. Il y avait donc déjà leur confession. Et voilà, c'est la première vraie confession. Prie pour nous. Il y a un changement de cœur. Ils réalisent maintenant qu'ils ont péché contre l'Éternel et contre Moïse. Et Moïse, sans amertume, il intercède pour son peuple. Nous voyons cet homme doux, maintes fois, qui intercède pour ce peuple si désobéissant. Mais dans la morsure du serpent et sa poison, le peuple voyait leur propre nature, ce qu'ils sont par nature. Quel est donc le remède pour une telle situation? Nous sommes, dans un sens, tous mordus par le serpent. Nous sommes tous empoisonnés par le péché qui habite en nous. Voilà donc. Le remède est ainsi que Moïse doit donc monter un serpent d'airain sur une perche. On peut demander, mais quelle folie, quelle folie! Mordu par un serpent, lever un serpent d'airain sur une perche, est-ce que cela c'est le chemin du salut? Nous voyons ici ce que l'apôtre Paul a dit plus tard. Pour le monde, c'est de la folie. Ils ne peuvent pas comprendre la sagesse de Dieu. Dans sa sagesse, il a dit à Moïse de monter ce serpent d'airain. Et c'est bien que le Seigneur, notre adorable Sauveur, qui fait mention de cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 3e, versets 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » C'est quand même étonnant ce que nous entendons ici de la bouche du Seigneur Jésus. « Ainsi !» Il se compare lui-même, sans ambiguïté, à ce serpent, le Seigneur lui-même. Lui qui est saint et sans péché. Et nous voyons dans la Bible que le serpent représente le mal, le diable, le péché. Alors, c'est là que nous lisons que Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Il a été fait péché pour nous. Voilà l'explication pourquoi élever un serpent d'airain sur une perche. Type, symbole de Christ lui-même qui a été fait, qui a été maudit. Malédiction pour nous, dit l'apôtre Paul en Galates. Est-ce que cela ne touche pas notre cœur, mes chers amis? Que lui, le Saint-Fils de Dieu, a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions la justice de Dieu en lui. Il a été frappé, il a été crucifié sous la malédiction et la condamnation de nos péchés. Alors, sur une perche élevée, nous voyons la croix du calvaire. C'est là qu'il a été élevé et crucifié pour chacun de nous. Est-ce qu'il y a encore ici une personne, une âme? Et vous n'avez pas encore réalisé que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous, pour vos péchés. Ce soir, ce moment, crois en Jésus-Christ, confesse tes péchés et reçoit le pardon et la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Regarde, un seul regarde, et ça suffit, dit l'Éternel. Verset 9. Lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. C'est encore vrai aujourd'hui. Un seul regarde, dans la repentance, la confession de péché, croire en Jésus-Christ, l'accepter, s'abandonner, on reçoit la vie éternelle. Et voilà, depuis le verset 10, nous voyons donc le départ. Et les fils d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Puis ils avaient marché avec leur dos, Prince dit, si vous regardez encore la carte géographique, jusqu'à maintenant ils avaient marché avec leur dos vers le pays de Canaan, maintenant il faut tourner. Et c'est pour cela que nous lisons dans le verset 11e à la fin, ils partirent d'Oboth et campèrent Izim Abarim dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Voilà, tourner le dos, ce qui est négatif, et tourner le visage vers le but de Dieu. Pour nous, c'est fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus. En Colossiens 3, le premier chapitre aussi, nous exhorte de mettre nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. C'était un point décisif pour le peuple d'Israël, depuis ici. Ils sont tournés maintenant leur visage vers le lever du soleil, dont la lumière de l'Esprit Saint nous aide à comprendre un petit peu des conseils éternels de Dieu dans sa parole. Et depuis là, donc, il y a une abondance d'eau. Nous lisons dans ces versets suivants, par exemple, le verset 14, Vaheb et Soufa, en Soufa, et les rivières de l'Arnon. Verset 15 parle des cours des rivières. Verset 17 parle de Béir, ça c'est un puits. L'hébreu veut dire puits. Il y a le verset 16 encore à la fin. Assemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Verset 17, alors Israël chanta ce cantique. Monte puits. Il y a une abondance d'eau. Une abondance d'eau. Et nous voyons ici, cette eau, c'est un type, une figure de l'Esprit Saint qui donne des rafraîchissements spirituels pour notre vie spirituelle. C'est pour cela qu'ils marchaient chantant. Ils sont rafraîchis par ces sources d'eau. Il y avait la grâce, dans le chapitre précédent, la grâce qui donnait de l'eau du rocher. Mais il y a ici aussi l'effort, le zèle des princes et de Moïse pour creuser afin qu'il y ait de rafraîchissement. Pour nous aussi, il faut creuser dans la parole de Dieu et alors s'approfondir. Il faut manifester un zèle pour l'étude de la parole de Dieu et c'est là qu'on trouve aussi aujourd'hui ces rafraîchissements spirituels. Est-ce que nous le ferons? Est-ce que nous le faisons? Les torrents de Zéred, les torrents d'Arnon. Torrent d'Arnon, ça veut dire cours d'eau continuelle. Pour nous, la présence de l'Esprit Saint, c'est un rafraîchissement continuel. Chaque jour. Et voilà, donc, nous arrivons au verset 13. Et à la fin, 14, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, etc. Remarquons, il dit le livre des guerres de l'Éternel, il ne dit pas des guerres des frères. Et s'il y a un conflit, s'il y a une différence entre frères aujourd'hui, on se combat, est-ce que c'est vrai que c'est le combat du Seigneur? Ou est-ce que c'est notre combat? Il faut réfléchir à cela. Il y avait donc un livre des guerres de l'Éternel, des guerres spirituelles contre les ennemis. Et alors, c'est donc des histoires, un livre écrit qui n'existe pas aujourd'hui, mais voilà, elle a mentionné. Mais l'apôtre Jacques, en effet, Jacques, il dit bien d'où viennent les guerres, dans son chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous, frères et sœurs? Quelle question pénétrante pour nos cœurs aujourd'hui. D'où vient tout cela? Mes chers amis, ça vient de notre chair, de notre propre opinion, de notre propre cœur, de manque de soumission au Seigneur et l'un à l'autre. Mais voilà donc, il y a ici des différents endroits qui sont décrits. Un stage, des différents stages, on voit. Et encore plus dans le chapitre 33e, il y a tous les stages de 40 ans qui sont décrits, tous les noms sont donnés. Pourquoi? Dieu est intéressé dans tous les stages de notre progrès spirituel, de chacun, chacune de nous. Il y a des stages dans notre vie spirituelle. J'espère qu'il y a d'avancement, qu'il y a un accroissement spirituel dans la vie de chacun de nous. Les jeunes croyants qui avancent aussi dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'expérience avec le Seigneur chaque jour. Des moins jeunes, il y a des stages. Et le Seigneur prend soin, il nous regarde, il nous encourage, il nous rafraîchit par son esprit, par sa parole. Que c'est beau. Et c'est ainsi qu'on peut avancer d'un campement à un autre campement, etc. Jusqu'au bout. Il y avait donc ce cantique et d'Israël, verset 17. Alors Israël chante ce cantique, monte puis, chantez-lui. Il chante au puits. Si donc l'eau, c'est un type de l'Esprit Saint, on peut donc donner joie à l'Esprit Saint en obéissant, mais on peut aussi attrister l'Esprit dans notre manque de soumission. Est-ce que le Seigneur peut nous regarder avec joie, chacun, chacune de nous, parce que nous marchons dans l'Esprit, et l'Esprit n'est pas attristé? Et sinon, donc, il y a des chants, il y a de la joie dans notre vie, qu'il en soit ainsi. Et alors, il y a ce cantique, chante. Et nous voyons aussi, dans le verset 18, et les princes ont creusé. Les princes, on pourrait dire, c'est la noblesse spirituelle. Il y a une noblesse spirituelle. J'espère que nous réalisons tous notre noblesse spirituelle. Nous sommes des enfants de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Il y a une noblesse qui s'attache à notre position. Et alors, eux, ils creusent. Ils sont ces éléments, ces frères et sœurs spirituels dans une assemblée locale qui sont là pour aider leurs frères et sœurs. Comme aussi cet homme pur dans le chapitre 19e. Certainement, en premier lieu, c'est le type de l'Esprit Saint. Mais aussi l'Esprit Saint dans les frères et dans les sœurs pour aider leurs frères errants ou leurs sœurs errantes pour la restauration. Est-ce que nous sommes disponibles, principe, pour aider les uns les autres, pour les encourager? Voilà les princes. Et le législateur, c'est naturellement aussi Moïse. Avec leur bâton, ils ont creusé. Il y a ici un effort. Ils se fatiguent quand même pour le faire. Mais la spiritualité, ou la connaissance spirituelle ne vient pas comme ça, comme un petit paquet qui descend du ciel, un cadeau. Non, il faut se fatiguer pour avoir cette connaissance. Prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Et voilà donc leur progrès. On voit ce progrès dans les versets 19 et 20. Ils vinrent, et ensuite, de Matana, à Nahaliel, et Bamoth, etc., Pisga. Il y a d'avancement, de progrès. C'est pour nous à imiter cela aussi dans notre vie, par les puissances de l'Esprit. Mais voilà, et il y a toujours l'ennemi. Et nous voyons dans le verset 21, jusqu'à 33, les ennemis. Et la première mention, Sion, et manifeste une hostilité vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est bien un caractère de l'ennemi, une hostilité. Et la chair aussi. La chair est opposée à l'esprit. Il faut donc vaincre cet ennemi par la grâce de Dieu. Et alors, le Seigneur les aide et il, même si l'ennemi combattit contre Israël, dans le verset 24, Israël frappa par le tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis, etc. Dieu les a fortifiés. Il faut déposséder l'ennemi, il faut déposséder là où l'ennemi tient encore, maîtrise encore, soit dans notre vie, déposséder par la puissance du Seigneur et prendre possession pour le Seigneur. Il y a donc une certaine poésie dans les versets 27 à 29 qui parle de Hesbon. Hesbon était donc une ville de Moab, mais elle avait été déjà prise par les Amoriens auparavant. Mais maintenant, Israël est arrivé. Et Israël prend possession de cela. Tout cela nous montre la faillite de Moab. Et même si l'Éternel avait défendu à son peuple de troubler Moab, ici nous voyons que en prenant ce qu'appartenait aux Amoriens, qu'il avait déjà pris d'Amon, Israël a dépossédé ses ennemis, et Dieu les a donnés aussi une portion de Moab. C'est l'élargissement de leur terrain, de leur influence, et aussi pour le bonheur de ce peuple. Et ils arrivent dans cette poésie, dans le verset 30. Hesbon est péri jusqu'à Dibon, et nous avons dévasté jusqu'à Nophak, avec du feu jusqu'à Medeba. Et quand je lis cela, vous me permettez une petite histoire. Medeba se trouve au pied de Nebo. Et dans le passé, quand je visitais le Jourdain plusieurs fois avec mon cher ami Adel, on a souvent pique-niqué sur le Nebo, voyant toute cette vue merveilleuse. À gauche, la mer Morte, à droite, le Jourdain qui monte vers le mont Hermon, et à travers, devant nous, Jéricho, et puis plus loin encore Jérusalem. Mais là, au pied de Nebo, il y a cette ville, Medeba, aujourd'hui encore. Dans cette ville de Medeba, guerre mondiale dans le Proche-Orient, les Turcs qui avaient volé beaucoup de richesses en Égypte et d'autres pays qu'ils avaient donc cachées dans le sable du désert pour revenir après la guerre et chercher ces trésors. Mais ils n'ont pas trouvé. Mais ces sorciers, ils faisaient un cercle ensemble pour demander le diable, les démons, de les montrer les endroits où se trouvent ces trésors. Et un jour, voilà, les six étaient là, creusaient, et un de ces hommes, ces six, entendent une voix derrière lui qui dit ce verset qui est bien connu de tout le monde en Matthieu 16, verset 26. Car que profite-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et il tourne. Il n'y a personne. Mais il tremblait. Il n'était pas peureux parce qu'il avait déjà des expériences, des mauvais esprits, des démons. Eh bien, un peu tremblant, il continue à creuser. Et puis encore une fois, une autre voix qui parle derrière lui les mêmes mots. Il n'a jamais entendu. Tout tremblant, il est allé chez ses cinq amis, disant, je me sens mal, je rentre à la maison. Il arrive à sa maison, et dans son bureau, sur les rayons, il cherche. Et par miracle, il est là, un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament en arabe. Il monte sur quelque chose pour prendre ce Nouveau Testament qui tombe par terre. Et il ouvre où? Matthieu 16, 26. Tout tremblant, écrasé, il tombe à genoux et cette nuit a été sauvé. Tout de suite, il est allé chez ses cinq autres frères. Ils avaient une pareille expérience et tous ces six ont été sauvés. Je l'ai rencontré à Madeba. Le Seigneur les a conduits à étudier la parole de Dieu ensemble et notre frère Adel, pendant 3 mois, est allé chaque jour pour les enseigner la parole de Dieu. Et c'est devenu un groupe de 60 personnes. Vous voyez le miracle qui se passait encore à Madeba? Vous m'excusez ce petit récit, mais ça vous montre encore la puissance de l'Esprit par la parole de Dieu. Et le peuple continue pour encore vaincre un autre ennemi depuis le verset 32 jusqu'à la fin de ce chapitre. Les Amoriens, Og et Sion. Og, hostilité, et Sion et Og, ça veut dire coup longue, oh, l'orgueil, encore des caractères de la chair. Et alors, ils ont combattu contre ses ennemis et le Seigneur a donné la victoire. Ne crains pas, verset 34, car j'ai livré en ta main l'ennemi. Et prirent possession de son pays. Voilà, mes chers amis, notre programme. Par la puissance de Dieu, de se soumettre à sa volonté, et de s'approprier de cette puissance de l'Esprit qui habite en nous, de se soumettre à sa direction, pour qu'il puisse nous conduire d'un victoire à un autre, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés.